Québec se lève. La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux sieur de Terrien.
Oh, que oui, la dernière chronique avant l'examen de mi-session. Okay, oui. François, comment vas-tu, mon studieux?
Ça va super bien.
Ça me rappelle mes montants à l'école.
J'ai l'impression que ça va être plus difficile, cet examen-là, que le dernier examen en plus.
Je vais tout étudier.
Pourquoi?
La veille.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a couvert plus large, plus de stock. Le premier examen, j'étais capable de dire avant l'examen, en fait, la dernière fois qu'on a fait un examen,
c'était au mois de juin.
C'était au mois de juin.
Puis on avait commencé la chronique au mois de janvier. Alors, il y avait à peu près 6 mois de chronique. Puis là, on part du mois d'août, puis on est au mois de décembre. Alors, logiquement, il faudrait que je les compte, mais il y en a un peu moins là, pour cet examen-ci.
Écoute, je sais pas. Peut-être que je me trompe, puis dans le fond, ça va être également facile, on va dire. Là,
ça dépend des questions.
Ouais,
et de votre étude.
Ouais, notre étude.
Ouais, c'est ça.
En fait, votre attention pendant les chroniques.
Ouais. Moi, tu sais, j'étudiais pas quand j'étais à l'école. Je n'ai pas commencé à étudier sur le marché du travail.
Mais c'est parce que toi, tu lis les notes que François t'envoie la veille. Moi, je les lis pas parce que je veux me laisser surprendre.
C'est ça. Qui t'a dit que je lisais les notes? Que François m'envoie.
Ben, en tout cas, tes imprimes.
Je les imprime, oui, ça, oui. Ça,
il y a une marge entre les deux.
Ouais. En tout cas, vous les avez tous. Ouais, alors, vous pouvez revoir les chroniques depuis le mois d'août.
C'est juste parce que t'es pas studieux, Vez. OK. Fait qu'aujourd'hui, François, les Premières Nations et les Hurons, spécifiquement, c'est ça?
Ben oui, parce que les Hurons, c'est nos voisins depuis, écoute, 1697 qui sont installés à ce qui a été à l'époque le village Huron, puis qui est devenu Wendake maintenant. Mm-hmm. Ça fait 323 ans qu'ils sont installés là où ils sont. Alors, c'est quand même beaucoup d'années.
Mais ils étaient où avant? Parce qu'ils étaient là avant nous autres parents.
En fait, la Huronie, là, c'est que Le territoire pour les Amérindiens, c'est quelque chose de... C'est pas des frontières strictement définies avec des bornes, là.
Ouais.
C'est un grand territoire, puis les frontières avec les autres nations sont... C'est pas clairement défini.
Ouais,
mais
c'est
eux,
ça.
Leur quartier général, si tu veux, des Hurons, ils étaient en Ontario. Des Ontariens, ces gens-là.
Ah ben!
Ils étaient sur les bords de la baie Georgienne, au nord de Toronto.
Okay.
C'est là qu'ils étaient. La Huronie, Wendake, parce que Wendake, ça veut dire Huronie en langue huronne.
Ouais, OK.
Ben, c'était là. C'était là qu'ils étaient situés à l'époque.
Ah bon?
Mais vous allez voir au fil de la chronique pourquoi ils se sont envenus ici. En fait, une des raisons, c'est que Champlain, quand il a fondé Québec en 1608, il était venu en Amérique avant. Alors, il avait établi des contacts avec les Premières Nations. Mais quand il s'est installé à Québec, là, définitivement en 1608, là, quand il a déménagé, là, c'est avec les Hurons qu'il va établir les liens les plus durables. Et comme les Hurons occupent une grande partie du territoire situé le long du Saint-Laurent et des Grands Lacs, ben, c'est souvent eux qui étaient les guides des Français dans leurs excursions vers le cœur du pays. Mais surtout, la nation avec laquelle la Nouvelle-France commerçait le plus, notamment pour la traite des fourrures, ben c'était les Hurons-Wendat, parce que leur territoire, c'était le meilleur pour trapper. Là où on retrouvait les animaux avec lesquels on faisait la fourrure, principalement les castors à l'époque, c'était en Huronie qu'ils étaient. Mais c'est une guerre qui va sceller l'alliance entre les Français et les Hurons, puis ça prendra pas de temps. Champlain s'allie avec les Hurons et d'autres nations autochtones dans leur guerre face aux Iroquois. En juillet 1609, ça fait un an que Québec est fondé, il affronte les Iroquois, Champlain et sa gang, avec les Hurons, affrontent les Iroquois sur les rives du lac Champlain. Parce qu'ils étaient dans ce coin-là, les Iroquois. Eux autres, c'était des Américains, si vous voulez. Ils étaient,
Puis les Hurons étaient du bord des Français?
Oui.
Eh bien, mon vieux, je savais pas ça.
En fait, c'était plus les Français qui étaient du bord des Hurons.
Ah, parce que,
c'est que les Hurons étaient en guerre avec les Iroquois. Les Français, eux autres...
De territoire? On le sait-tu pourquoi?
C'est assez territoire, puis aussi... Les Autochtones avaient une façon bien particulière de faire la guerre. Il y avait une bataille. Puis le gagnant, les prisonniers, dans le fond, là, on les parquait pas dans un camp de prisonniers. Là. Ils devenaient membres de ta nation.
Ah bon?
C'est comme ça qu'on assurait la diversité génétique, si vous voulez, du côté des populations autochtones. Quand on capturait, mettons, que les Iroquois capturaient des Hurons, ben c'est sûr qu'il y en a qui étaient tués. Ils en zigouillaient quelques-uns, mais ils en gardaient d'autres.
Ils se faisaient des perruques aussi, ça de
l'air. Ils en scalpaient
une gang.
Puis ces gens-là devenaient des Iroquois. Et vice-versa, si les Hurons battaient des Iroquois puis ils faisaient des prisonniers...
Ça fait qu'eux autres, gardez vos amis proches, mais vos ennemis encore plus proches, là. Ils avaient compris ça.
C'est ça. Vos ennemis deviennent vos amis à un moment donné.
Okay.
Il y en a qui le deviennent pas, mais il y en a qui le deviennent. Alors, les Hurons étaient en guerre avec les Iroquois. Les Français, eux autres, à quelque part, avaient pas vraiment de parti pris là-dedans.
La guerre, c'est pas une raison de s'en faire mal!
Ça passait hier, je pense.
Oui, c'était à Ciné-Cadeau hier.
Ça passe aujourd'hui, plus tôt en journée.
Là. OK. Bon, ben voilà. Alors, petite aparté de la chronique. Donc, les Hurons étaient en guerre avec les Iroquois, commerçaient avec les Français. Alors, ils ont dit aux Français, écoutez, là on a des problèmes avec les Iroquois, puis on aimerait que vous nous aidiez parce qu'ils menacent nos lignes de communication. J'imagine que c'est ça qui s'est dit, là. On pourra pas attraper pendant qu'on fait la guerre. Fait que plus vite que ça va être fini, plus vite qu'on va vous amener des pots. Alors, Champlain dit, parfait, on va là. Puis ça s'est passé sur les bords du lac Champlain, près de la ville qui s'appelle Ticonderoga, maintenant, dans l'État de New York. Sauf que les Iroquois avaient jamais vu d'armes à feu. Alors, les Français, ils ont tiré 2-3 coups, puis ça a été la pagaille de l'autre bord. Alors, la bataille, c'est terminé dans le temps de le dire, là. Si ça a duré 15 minutes, c'est beau. Sauf que cette bataille-là aura des répercussions pour les 100 prochaines années. Parce que, au départ, l'alliance avec les Hurons, pour les Français, c'est payant parce que c'est la traite des fourrures. Mais les Iroquois, eux autres, ils voient ça, puis ils veulent leur part du gâteau, là. Ils voient les Hurons, là, qui s'enrichissent, entre guillemets, qui ont des puissants alliés. Ils peuvent pas, ça peut pas rester comme ça. Alors, ça va mener à une guerre qui se soldera par la défaite des Hurons. En fait, les Anglais ont appelé ça la Beaver War. Okay, c'est la guerre des fourrures, là. Ouais. Puis les Iroquois, eux autres, comme ils étaient sur le territoire colonisé par les Néerlandais, qui sont arrivés avant les Anglais en Nouvelle-Angleterre, c'est les Néerlandais, là. Et New York, c'était Nouvelle-Amsterdam avant, là. Puis ils ont fondé quelques villes dans l'État, dans le nord de l'État de New York.
Ah ouais?
Albany, ça avait un autre nom. Je me souviens pas c'était quoi. Mais c'était les Néerlandais qui avaient fondé cette ville-là. Alors, les Néerlandais ont armé les Iroquois. Alors là, ils étaient à armes égales avec les Hurons. Et puis, entre 1649 et 1651, les Iroquois vont vaincre décisivement les Hurons et ça va mener au dispersement des Wendat. Alors, c'est pour ça qu'ils sont venus ici. Parce que comme je vous disais tantôt, eux autres, leur pays, c'était au bord de la baie Georgienne, au nord de Toronto. Mais là, les Iroquois, là, sont en train de les battre à plate couture. Alors là, ils n'ont pas le choix. Ils se dispersent. Il y en a certains qui sont partis vers le sud. On en retrouve aujourd'hui des Wendat au Kansas et surtout en Oklahoma. Mais il y a environ 500 d'entre eux qui sont christianisés parce qu'en plus de commercer avec les Hurons, évidemment, là, les Français veulent les convertir au christianisme. Ben oui, ils ont réussi pour certains. Alors, 500 d'entre eux se réfugient sous la protection des Français aux environs de Québec. Puis là, ils vont tester plusieurs endroits avant de se fixer sur leur terre actuelle. La majorité va s'établir sur l'île d'Orléans, mais il y a un petit groupe qui va s'installer avec des membres d'autres nations autochtones dans la seigneurie de Sillery. Okay. Cette seigneurie-là avait été concédée par la France aux, j'ouvre les guillemets, sauvages devenus chrétiens, je ferme les guillemets.
Ouais, ils appelaient ça sauvages devenus chrétiens.
Sur l'acte de création de la seigneurie, c'était ça qui était écrit.
Il était moins question de sensibilité à l'époque.
pas mal, oui. Disons que le politiquement correct n'existait pas vraiment pour les Européens, les Amérindiens, les Premières Nations, c'était des sauvages. Oui. Détail important, il était précisé que cette seigneurie était sous la conduite et la direction des Jésuites. Alors, dans le fond, à quelque part, elle appartenait aux Premières Nations, mais pas juste aux Hurons, parce qu'il y en avait d'autres. Il y avait des Innus et des Algonquins, entre autres. Mais c'était les Jésuites là, qui étaient comme les... moi, je pourrais dire, là, c'est eux autres qui renaient la chope. Ouais. En bon québécois, là, c'est eux autres qui administraient la seigneurie. Et le chef-lieu de cette seigneurie existe encore, c'est la maison des Jésuites, qui est toujours présente sur le chemin des Foulons.
Ah ben oui!
Bon ben, c'était le chef-lieu de la seigneurie.
C'est logique.
Les habitants de la seigneurie, là, principalement des Amérindiens, ils étaient dans ce coin-là. Mais l'expérience, elle durera pas très très longtemps en raison des épidémies et des menaces constantes des Iroquois parce qu'eux autres, ils n'étaient pas contentés de leur victoire. Là. Ils pourchassaient les Hurons là où ils pouvaient les trouver. Alors, ils faisaient des petits raids sur la seigneurie là, pour capturer et tuer des Hurons. Alors, autour de 1700, les Amérindiens quittent la seigneurie et les Jésuites prennent possession des terres. Ça, c'est important à retenir. Je vous en reparler un petit peu plus tard. Alors, les Hurons vont s'installer un temps à Sainte-Foy, après ça, à l'ancienne Lorette, dans le coin de l'église de l'ancienne Lorette.
Okay.
Ils étaient installés dans ce coin-là, avant d'adopter leur actuel territoire en 1697. C'est en 1697 que les Hurons partent puis s'installent au pied ou dans le secteur de la chute Kabir-Kouba, puis ils sont là depuis ce temps-là. Alors, 1697, il s'installe là. Évidemment, ces déplacements-là, un peu partout dans la région de Québec, expliquent les revendications territoriales faites par les Hurons-Wendat à travers les années. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont des revendications partout, mais c'est parce qu'ils ont été pas mal un peu partout. La plus importante, évidemment, a été celle de la seigneurie de Sillery, dont je vous parlais il y a quelques minutes. Comme l'acte de création de la dite seigneurie mentionnait qu'elle appartenait aux ouvrez les guillemets, sauvage devenu chrétien, fermez les guillemets, mais administré par les jésuites, les Hurons soutenaient qu'elle devait leur revenir une fois les religieux partis. Puis au 19e siècle, le chef des Hurons-Wendat de l'époque, il s'appelait Nicolas Vincent, il a été particulièrement actif. Il va aller plaider la cause de sa nation devant l'Assemblée du Bas-Canada en 1824. Puis l'année suivante, à la tête d'une délégation huronne, il se rend à Londres pour rencontrer les autorités coloniales, parce que c'était la Grande-Bretagne qui menait les choses ici. Alors, il a traversé l'océan pour aller les rencontrer, pour leur dire, « Hey, c'est à nous autres, ça revient à nous autres, cette seigneurie de Sillery-là. » Mais ces deux initiatives-là vont échouer. Puis, en plus de ça, il y a plus de 25 pétitions ou documents du genre qui ont été acheminés aux autorités françaises, puis anglaises, à partir des années 1700 jusqu'à peu près 1825 et un peu au-delà. Mais ça a jamais marché. La seigneurie de Sillery est revenue aux gens qui l'habitent maintenant. Là.
Donc, c'était quoi? C'était le grand chef, le monsieur Nicolas Vincent?
Oui, à l'époque, c'était le grand chef de la nation Huron-Wendat.
Il partage un nom de famille avec le grand chef actuel,
oui.
Rémi Vincent.
Je ne sais pas s'il y a un lien de parenté.
Je ne pas
dire,
nous
dire,
même,
là, mais oui, effectivement, c'était un Vincent lui aussi. Alors, une fois installés pour de bon sur leur territoire actuel, les Wendat vont changer leur mode de vie du tout au tout. C'était des agriculteurs, eux. En Huronie, là, ils cultivaient le maïs, entre autres. Mais leur secteur actuel, là, près de la chute Kabir-Kouba, les terres agricoles étaient de piètre qualité. Donc, ils vont devoir s'adapter et abandonneront l'agriculture pour la chasse. Puis les nations environnantes, les Innus, les Algonquins, les Abénakis, ont partagé leur territoire de chasse avec eux, ce qui explique les liens tissés entre eux et les Hurons dans ce qu'on appelle maintenant le parc des Laurentides. Je vous en ai parlé, il me semble que c'était au début de la saison qu'on avait parlé du parc...
La réserve faunique,
c'est ça.
J'aurais pas eu cette question-là à l'examen de la semaine prochaine, m'a dit.
Il y a plein de pistes amérindiennes.
Oui,
là,
oui, je me souviens.
C'était ça. Les Hurons partaient du village Huron, puis ils allaient sur leur territoire de chasse. Alors, c'est pour ça qu'ils ont revendiqué beaucoup de territoires.
Ça se rendait jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça, tu nous disais, jusqu'au Lac-Saint-Jean.
Ouais, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, c'était... Même, ils pouvaient monter. Il y avait des pistes partout, là. À l'époque, là, il y a quelques-unes de ces pistes-là ou des segments de pistes qui ont été retrouvés. Mais il y en avait, là, c'était un labyrinthe de pistes pour aller d'un territoire de chasse à un autre. Ils ont gardé certains territoires, entre autres le secteur Tourilly, qui est près de Saint-Raymond-de-Portneuf. Ce sont les Hurons-Wendat qui gèrent ce secteur-là. Tu peux aller pêcher puis chasser dans ce coin-là, puis c'est eux qui le gèrent. Mais peu à peu, la chasse doit être abandonnée en raison de la colonisation des terres. Là, c'était plus possible d'aller chasser un peu partout dans le parc des Laurentides, devenu réserve. Alors, tranquillement, c'est l'artisanat qui devient important chez les Wendat. Ben, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, il n'est pas rare de voir des Hurons vendre leurs créations un peu partout dans les villes ou les stations balnéaires le long du Saint-Laurent qui étaient fréquentées par des touristes. Puis aujourd'hui, ben c'est plus les touristes qui viennent à eux qu'eux qui vont aux touristes. Les Français qui viennent à Québec, là, Wendake, ben oui. c'est un arrêt obligatoire. Alors, à Wendake, aujourd'hui, on compte un peu plus de 1300 Hurons sur le territoire de la réserve et plus un autre 1700 qui vivent ailleurs au Québec. Les populations américaines des Wendat sont plus nombreuses. Je vous parlais de Kansas et d'Oklahoma tantôt. Là. C'est là qu'on les retrouve. Surtout en Oklahoma, ils sont environ 4000. Eux autres.
Okay.
Des Hurons, des descendants des Hurons qui sont partis de la baie Georgienne quand ils ont été vaincus par les Iroquois puis qui sont allés un peu partout. Ben, la majorité, on les retrouve là, dans le sud des États-Unis. Puis je pense qu'on les appelle les Wyandots ou quelque chose comme ça aux États-Unis.
Mais d'ailleurs, on aurait une tentative pour Albany. Quelqu'un nous écrit, on rebaptisa Beverjwick. Beverjwick. Au nom d'Albany.
Ça se peut.
Ça se pourrait. J'ai pas la réponse.
Deux points pour l'effort de prononciation.
Il y a Albany, Schenectady, qui est dans ce coin-là aussi. Ça avait un nom néerlandais. Là, je me souviens pas lequel.
En tout cas, Beverjwijk, qui ça fait un peu...
Ouais, ça fait néerlandais.
Ça fait un peu Europe du Nord. Hey, François, merci.
Ça me fait plaisir.
Coué à tous nos amis.
Oui.
Huron-Wendat. Et puis, la semaine prochaine, c'est l'examen.
OK, oui.
Mm-hmm. Hey boy.
Oh, pas l'air.
Soyez prêts.
On prend une pause au retour.
Je commence à avoir mal au ventre.
T'es déjà sur le nerf. Au retour, on reçoit Marc Fournier, président des jeux Gladius. Pourquoi? Parce que Noël va être un peu weird cette année. Puis on s'est dit, au lieu de chialer sur Noël, ça va-tu être de la merde, y'a qu'un bring-ing-ing-ing. On s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Une des possibilités, c'est des jeux de société. Il y en existe-tu où on peut jouer à distance? Il y a-tu des jeux qui se jouent tout seul ou à deux, tu sais, en couple? Beaucoup d'entre nous seront peut-être en couple. On fait le tour de toutes ces possibilités-là pour essayer de comme dirait le maire la bombe, de se tricoter un Noël avec Marc Fournier des Jeux Gladius. Après la pause.
Que Québec se lève.
De retour après la pause. 2020 aura été rempli d'incertitudes, mais cette année, pour les fêtes, chose certaine, ce sera bon. Pour ce faire, À Table Chez Soi signé Resto Plaisir vous propose son savoureux menu des fêtes inspiré par ses chefs. Profitez d'un festin sur mesure grâce à sa vaste sélection de plats, desserts et hors-d'œuvre, tels que le Wellington de Buff Island, le